Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Jeudi 4 novembre, bonne journée, bienvenue au 98.5 avec, comme prévision pour terminer la semaine, pas mal de soleil. Il y a quelques nuages, par exemple, aujourd'hui, le maximum prévu 6. Les vents sont aussi à considérer, mais déjà Environnement Canada qui introduit la notion de refroidissement éolien. Ça va tourner autour de moins 6, moins 8 aujourd'hui. Pour ce qui est de la soirée, quelques nuages, même chose pour la nuit, moins 1 degré. Et vendredi, soleil-nuage avec 6 degrés. Donc vraiment, on a eu une très, très belle semaine. Après le week-end pluvieux, là, on a eu du soleil presque toute la semaine, à part quelques parenthèses. Le méga débat a été déclenché hier par le PDG d'Air Canada, M. Michael Rousseau, qui est venu faire un discours à la Chambre de commerce de Montréal. Et on le savait, là, que son discours serait uniquement en anglais. Version officielle, M. Rousseau comprend un peu le français, mais ne le maîtrise pas assez pour le parler en public. Et hier, point de presse, M. Zappa de TVA lui pose la question de vivre en français à Montréal, de vivre, c'est-à-dire à Montréal, sans parler français, sans vouloir l'apprendre non plus. Est-ce que c'est possible? Puis là, il a demandé qu'on traduise la question, l'assistante, etc., etc. Qu'est-ce qu'on retient de ses propos? Essentiellement, qu'il ne parle pas français puis qu'il n'a pas l'intention de l'apprendre. C'est le président de Air Canada, une société qui est régie par la loi sur les langues officielles. On va écouter un peu son explication. C'est pas très long, là. En un mot, il n'a pas le temps d'apprendre le français.
I would love to be able to speak French. A lot of my family has a French background. But right now, my priority is ensuring that Air Canada gets back to where they were.
Alors, c'est de ramener Air Canada. Donc, je n'ai pas le temps dans mon agenda qui est surchargé de prévoir des cours de français. C'est comme s'il n'avait pas pu commencer à apprendre le français avant, mais ça. Mais sur un point, il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il est possible de vivre puis de travailler à Montréal sans parler français. Ce qui est le drame en soi. Là, on a l'attitude de quelqu'un, puis on le voit un peu par son allure, là, un peu hautain, un peu méprisant, puis qui nous regarde en nous disant, sérieusement, vous pensez que j'ai besoin de comprendre puis d'apprendre le français pour être le boss d'Air Canada puis faire bien de l'argent? On connaît déjà le respect de la loi sur les langues officielles par Air Canada. C'est un mauvais citoyen corporatif depuis des années, pas bien ben surpris de voir ce PDG regarder les gens puis dire « Quoi votre problème? » Mais je reviens quand même à ce point, c'est-à-dire que est-ce que je peux aller au restaurant puis pas parler français, puis manger au restaurant puis me faire servir? La réponse est oui. Je peux-tu voir un film en anglais? Aucun problème. Est-ce que je peux me promener dans les commerces? Zéro problème. Et que vont faire les gens? Ils vont passer à l'autre langue puis ils vont me parler en anglais. Puis, je veux pas partir de chicane de corridor, mais on avait ici des collègues de la station Beat qui n'ont jamais parlé français, à qui, moi, des fois, je parlais en français, je voyais qu'ils comprenaient un peu, mais qui me répondaient en anglais, et en plus, étaient complètement déconnectés de la culture québécoise. Pas tous, là, il y en avait quand même quelques-uns. Et c'est là où c'est un peu encore insultant, tu te dis, je m'en vais travailler en Italie, en Allemagne. Au-delà de la job, là, me semble que j'aurais le goût de m'imprégner de la culture locale. Puis si je suis pour vivre à Rome, ben, je vais apprendre l'italien du mieux que je peux, c'est-à-dire essayer au moins de certaines maîtrises de la langue. Alors, dans le cas de M. Rousseau, évidemment, c'est pas prioritaire, il y a d'autres choses à fouetter et ça ne l'intéresse pas. Puis là, partout ce matin, c'est le débat qui est reparti, comme on a vu dans les années presque 70 au Québec. Deuxième dossier, celui du meurtre de cette petite fille. hier un autre témoignage extrêmement émouvant. C'est un jeune de 5 ans qui est venu témoigner, puis ça a été enregistré, en fait. Là. C'est une vidéo qu'on a présentée. Et comme le rapportait notre collègue de Cogeco à Trois-Rivières, c'est la phrase d'un enfant qui dit « Je l'aimais beaucoup, beaucoup, ma sœur. » C'est effrayant. Et il est venu confirmer un peu les descriptions qu'on avait eues de l'état dans lequel on a retrouvé l'enfant. Puis ce qu'on comprend, là, depuis le début, c'est que c'est une petite fille qui, et son frère l'a dit, écoutait pas trop les consignes, qui faisait des crises, et que elle a tenté de fuguer à quelques reprises, et que la belle-mère, c'est un peu la thèse qui est présentée en cours, l'aurait enfermée dans la chambre, qu'elle passait beaucoup de temps enfermée dans la chambre parce qu'elle volait de la nourriture, pas juste à l'école, mais aussi à la maison. T'sais, c'est comme si tu pouvais voler de la nourriture à la maison. Et qu'on l'aurait enrubané avec du scotch tape là, pour l'empêcher de sortir, en plus de placer des meubles. Et donc, il parle avec un enquêteur de la Sûreté du Québec, puis il y a le fameux chien qui est là aussi de soutien. Et il revient sur le fait qu'elle avait ouvert la fenêtre, qu'elle voulait sauver, puis qu'elle était donc un paquet de troubles pour la belle-mère, puis sans doute pour le père aussi. Et, comme je vous dis, il a décrit la façon dont on l'avait enrubané. C'est épouvantable. On a essayé d'avoir des contradictions. On comprend que c'est le rôle de la défense. Mais c'est clair que c'est un enfant qui a été maltraité. C'est un enfant qui a été sous-alimenté, probablement. C'est un enfant qui a été négligé. Puis là, j'allais dire martyrisé. On va attendre les conclusions du procès, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'horrible dans cette histoire-là. Bon, le dossier vaccin. Hier, le ministre Christian Dubé a dit « Ça sera dorénavant le dépistage obligatoire au lieu de la vaccination obligatoire. » Regardons les faits. Globalement, au Québec, la population qui est éligible au vaccin, donc on enlève les enfants de moins de 12 ans, 90 % des gens ont reçu une première dose et 87 % ont reçu deux doses, pourcentage plus élevé dans le réseau de la santé. Mais ce n'est pas suffisant pour se passer du personnel non vacciné. Sinon, c'est la rupture de service ou une réorganisation de service. Ça veut dire en français, là, des moins bons services aux patients. Alors, devant le mur, tu fonces ou tu dis j'arrête. Puis même je recule un peu. C'est ce que Québec fait. Et va s'assurer qu'il va y avoir ce dépistage aux frais des employés et également en dehors des heures de travail. C'est ce qui est supposé se faire. Il y a déjà des gens qui ont perdu leur job parce qu'ils ne veulent même pas être dépistés. Dans une société, quand tu as 87 % des gens qui sont doublement vaccinés, ceux qui restent, c'est pas juste un noyau dur, là. Ceux qui restent, là, c'est du béton qui ne changeront jamais d'idée pour toutes sortes de raisons. Alors, peut-être que cet ultimatum n'a pas donné le résultat voulu. Et je sais, je lis vos courriels de médecins, de gens du réseau de la santé qui sont en tas, qui n'ont pas envie de travailler avec du monde pas vacciné, même s'ils se font dépister. Puis en même temps, tu sais, cette espèce de sentiment partagé. T'aurais voulu les tasser puis dire, puis comment peux-tu travailler dans le réseau de la santé puis pas te faire vacciner? Mais ça, je comprends que chacun a ses motivations, mais bon. Puis il y a des croyances, puis la religion des fois se mêle de ça, puis la culture aussi. Alors, on pouvait pas s'en passer. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis c'est une victoire pour les antivax. Puis je sais qu'il n'y a pas une catégorie d'antivax, là. Sorte de gens là-dedans. Ça va de la personne qui a peur des aiguilles, qui a eu des mauvaises expériences avec des vaccins, à des gens qui sont convaincus que c'est un vaste complot. Fait que c'est sûr que c'est très variable. Alors, on va donc essayer de maintenir à flot le réseau. On a annoncé des assouplissements cette semaine, puis je vous donne un cas qui est dans le Devoir, qui illustre un peu le genre de débat. Le CHUM qui est un hôpital où on fait des transplantations pulmonaires, a adopté une politique. Pas le seul hôpital à faire ça, là. Toronto le fait également. Donc, les patients qui n'ont pas été vaccinés contre la COVID ne sont plus admissibles à une grève de poumons. Pourquoi? Parce que si t'es pas vacciné, t'as un potentiel plus élevé, évidemment, d'attraper la COVID puis d'avoir des effets secondaires importants, ce qui augmente, paraît-il, de 25 à 30 les risques de rejet de complications, voire même de mortalité. En d'autres termes, on n'est pas pour prendre un organe recherché comme un poumon, puis on sait qu'il y a des gens qui attendent, la liste est longue, et de le transplanter sur quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui devient extrêmement vulnérable. Et là, vous avez le cas d'une patiente qui s'appelle Joanie Dupuis, qui est en attente d'une greffe, puis elle, elle peut pas, puis elle veut pas se faire vacciner parce qu'elle a eu des problèmes avec le H1N1 et d'autres vaccins. Fait que là, l'hôpital lui a dit, malheureusement, vous venez de sortir de la liste. Est-ce qu'on va voir d'autres types? Il semble que pour l'instant, non, qu'il n'y a que la greffe de poumon qui est visée par cette directive. Alors, ce serait ça pas mal la situation. Et Radio-Canada qui nous dit que même si le ministère de la Santé fait affaire avec des cliniques privées de chirurgie, on veut limiter les nouveaux permis donc de ce genre de clinique. Pour éviter quoi? Ben pour éviter qu'on ait comme ça siphonné du personnel dans le réseau de la santé. Je vous rappelle que le ministre Christian Dubé sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Très bien, on va parler du monde municipal. Je vous rappelle que Valérie Plante et Denis Coderre sont avec nous, 7h20 ce matin. Je pense que c'est le dernier débat entre les deux pour cette campagne électorale. C'est le scrutin samedi et dimanche. C'est aussi vrai pour les autres villes. Et qu'est-ce qu'on retient de la journée d'hier? Ben d'abord, M. Coderre a présenté la liste de ses clients, ce qui était important de faire. Ça, c'est un. Deux, il a même mis les montants de ses déclarations de revenus, gagné grosso modo 450 000 $, pension de député, puis revenus. Il faut dire qu'il y avait encore un client qui était toujours, comme on dit, masqué. Et on a appris, la presse a fait des démarches, puis finalement, ça a été dédouané. C'est le groupe Transcontinental. Et c'est sûr que c'est des gens qui ont des intérêts à Montréal, là. Alors, que ce soit Transcontinental, par exemple, pour les fameuses circulaires puis les sacs, que ce soit Cogir pour l'immobilier, d'autres personnes, un des acteurs actionnaires, c'est-à-dire de Félix et Paul, qui est un studio de création, bien, connecté sur un empire immobilier. Alors, c'est sûr que les gens... Quand tu regardes la liste, il y a des intérêts. Est-ce que ça veut dire pour autant que Denis Coderre ne peut pas leur dire non, maintenant que c'est sur la place publique? Moi, je pense qu'il aurait dû le faire depuis longtemps. Puis le problème, c'est que les Montréalais, quand ils regardent ça, c'est un peu l'espèce d'image de dire « ça a pris du temps, est-ce qu'on nous cache quelque chose? » Puis ça, les gens ont le réflexe d'avoir des doutes. Puis je faisais un petit sondage dans les corridors tantôt, puis hier, puis c'était ça, tu sais, c'est, caches-tu quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on nous dit pas tout, tant qu'à faire? Puis est-ce que t'es mieux des fois de prendre toi-même l'initiative plutôt que de te le faire envoyer comme ça dans le visage? Alors, lui répète en entrevue qu'il n'est pas quelqu'un qui va se faire influencer, puis qui a gagné sa vie, puis c'est normal, tu sais, je veux dire, faut bien que tu travailles, puis tu mets sur la table tes compétences, puis tu vas faire... du travail, par exemple, de positionnement stratégique d'entreprise. Il y a quand même une expérience comme maire, puis comme député, puis comme ministre. Dans le cas de Valérie Plante, elle a dit dans la presse qu'elle n'est pas trop connectée sur le monde des affaires, qu'il ne l'aime pas bien, et qu'elle va probablement tenter d'améliorer les relations, mais pour elle, c'est toute la question du logement, c'est la question de la mobilité, c'est de redéfinir Montréal, puis d'avoir une ville différente. Moi, je vais vous dire une chose. Et je sais que les équipes des candidats respectifs écoutent, là. Les grands discours, oui, bien sûr, quelle sorte de plan de match avons-nous pour la métropole? Mais je vais vous donner deux exemples. Puis je reviens là sur le cas de Mme Sophie Brière, qui est la mère d'Alexis, un enfant de 12 ans, lourdement handicapé. Là. Je résume. Des mois et des mois à cogner pour obtenir un permis pour installer une plateforme qui va permettre d'élever la chaise roulante du petit gars à l'extérieur puis de l'amener chez eux, puis de le sortir de chez lui. On en parle, ça se règle. Pas normal. Mais je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé. tu sais, la politique puis la bureaucratie. Elle nous a écrit pour nous dire que Guillaume Lavoie, qui est de l'équipe de M. Coderre, l'a appelé pour lui annoncer qu'elle aurait le permis, donc, même s'il n'y a rien à voir là-dedans. Tu sais, c'était comme un petit peu... on travaillait pour vous. Le téléphone de la mairesse de l'arrondissement de Villeray qui s'excuse pour l'ensemble des problèmes puis qui me dit « Mais comment ça se fait que vous ne m'avez pas appelé directement? » Ah oui, on appelle les maires puis les mairesses d'arrondissement pour un permis. Direct. Alors que c'est dans la machine. La directrice du bureau des permis rappelle également pour lui dire qu'elle n'était pas au courant, qu'elle a vu ça la journée même, puis qu'elle est désolée des réponses qu'on a obtenues. Hier après-midi, là, les fonds-fonds, ils ont du temps, là, tu comprends-tu, ça se ramasse, là. Un autre en après-midi de Pierre Bisson, qui dit qu'il n'a jamais vu le dossier. C'est pourtant le nom que son conjoint, Mme Brière, avait obtenu comme étant la personne qui était supposée traiter le dossier. Ça continue comme ça. Comment vous allez faire pour améliorer la bureaucratie? Tu sais, les termes, là, l'agilité, puis capable de penser en dehors de la boîte. Ça, c'est un exemple. Puis je vais vous donner aussi un autre exemple ce matin, des préoccupations des Montréalais. Tu sais, est-ce que la ville est plus sécuritaire? Est-ce que les flips dans l'immobilier, il y en a moins à Montréal qu'avant? Est-ce que la ville est propre? Puis si oui, à quel degré? Etc., etc., etc. Logement, bien sûr. La sécurité, bien sûr. Mais c'est ça, la vie à Montréal. C'est de faire face aussi à l'administration et à la bureaucratie. Et entre-temps, je vous donne deux chiffres ce matin. Dans The Gazette, augmentation du coût du logement à Montréal de 4,6% en 2020, ce qui est beaucoup. Pour les commerçants et les entreprises à Montréal, tableau qui est publié par le groupe Altus et dans le Journal de Montréal, Montréal est la grande championne des taux d'imposition pour les commerces, pour les taxes, pour les commerces à Montréal. On est à peu près en bas de la moyenne pour ce qui est des propriétaires de résidences unifamiliales, là. Mais quand tu es dans le commerce à Montréal, puis tu sais, on fait toutes sortes de campagnes, parfois un peu douteuses sur le retour au centre-ville, bien, Montréal étouffe ses commerçants avec des taux de taxes qui sont extrêmement élevés. Et autre exemple de cette bureaucratie ultra sympathique, quand tu lis ça dans la presse ce matin, là, on a créé l'autorité régionale de transport métropolitain. Ça, c'est une autre patente qui est supposée coordonner, planifier le transport dans la grande région de Montréal. Ils ont présenté à Québec des projets pour 57 milliards. 57 milliards. Ils ont mis ça là, comme un fourre-tout. Et Québec leur dit, c'est bien intéressant votre affaire, pourriez-vous faire le ménage puis nous dire qu'est-ce qui est prioritaire? Gérald Tremblay faisait la même chose. Les ministres nous disaient, quand on vient à Montréal, puis on disait à Gérald Tremblay, OK, c'est quoi ta priorité? La bombe, il disait, 1, 2, 3. Gérald, il disait 1 jusqu'à 28. Pas une bonne idée. Ça marche pas, ces affaires-là. Alors, ils sont supposés planifier, organiser, promouvoir puis financer le transport en commun. Également, ce matin, les sacs de plastique à usage unique sont bannis à Laval à compter d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il sera plus possible pour les commerçants de Laval, ça existe dans d'autres villes comme Montréal, là, de vendre, de distribuer ou de mettre à la disposition des consommateurs des sacs de plastique à usage unique. Et également, on peut regarder le sommet sur l'environnement, COP26. Personnellement, je trouve que les discours remplacent les actions concrètes. Alors, oui, les investisseurs disent on va sortir des secteurs comme le pétrole, comme l'énergie. Mais tu ne sens pas des actions aussi concrètes que les études qui sont publiées et qui font état d'une dégradation. Mais quand on dit ce n'est plus que de réduire les gaz à effet de serre, mais d'adapter les infrastructures puis les humains aux effets des changements climatiques, donc des périodes de température extrême, des ouragans, puis on va avoir les premiers migrants environnementaux. C'est pas de devenir là, freak sur des questions vertes, là. C'est juste de dire voici ce qui s'en vient pour les prochaines années. Puis là, ben, ils débarquent tous là-bas en jet privé, puis ils parlent de toutes sortes d'affaires, puis des beaux principes, des cibles. Mais tu ne sens pas dans le propos qu'il y a bien, bien des choses qui ont changé lors de ce sommet.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Aux deux invités, les principaux candidats à la mairie de Montréal, Valérie Plante est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Denis Coderre, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, donc, c'est votre 11e débat. On faisait le décompte pendant la pause.
Oui.
Et c'est le dernier avant les deux journées de scrutin. Beaucoup de sujets. Je vais commencer ce matin par le dossier du PDG d'Air Canada et ses propos hier sur le fait de vivre à Montréal sans parler français, puis surtout de pas avoir l'intention de l'apprendre. Votre réaction, Mme Plante?
Ben, c'est absolument inacceptable. Je pense que ça, autant il y a beaucoup de Montréalais d'origine anglophone qui apprennent le français, ils s'installent ici, puis pour eux, ça fait partie de leurs valeurs. Mais là, quand on voit un PDG, donc une influence, puis qui refuse, qui méprise le français comme il le fait, pour moi, ça a pas sa place.
Siège social à Montréal, en plus. Il y en a un chicanera pas, hein. C'est inacceptable. Puis en plus, ils sont contents d'accepter nos impôts. Alors, je pense que dans ce sens-là, là.
Mais vous attendez à
on
quoi?
On va l'aider, on va y faire un coffee, on va y apprendre le français.
Mais une fois que le PDG a dit ça, vous attendez à quoi d'Air Canada?
Des excuses. Non, des excuses. Je veux dire, au prix qui est payé, il doit avoir un bureau de relations publiques pas pire.
Mais moi, en fait, ce que je trouve déplorable, c'est Air Canada, on le sait, là, d'année en année, ça continue. C'est même ce qu'il disait le PDG, bah, ça va faire une tempête, puis après ça, on passe à autre chose. Moi, je trouve ça problématique que Air Canada fait juste dire, bon, on attendra la prochaine tempête. Donc, oui, des excuses, je suis d'accord avec M. Coderre, mais aussi d'avoir une vraie solution, qu'ils apprennent le français. Ça n'a pas de sens d'habiter à Montréal, puis de même pas avoir le minimum, de même pas daigner dire les mots d'usage en français.
Le bilinguiste, c'est pas un francophone qui comprend l'anglais.
OK, alors vous entendez parfaitement là-dessus.
Ah, ouais.
Ça, c'est clair. Bon. Maintenant,
ça commence bien.
On va aller avec le deuxième. Là, je suis pas sûr que vous allez vous entendre. Pourquoi avoir attendu avant de rendre publique la liste de vos clients, d'avoir partiellement hier, puis finalement la liste complète? Alors, pourquoi avoir attendu?
Ben, écoutez, dans le secteur privé, vous le savez, il y a des ententes de confidentialité. Là, c'est pas politique. Et puis, d'ailleurs, la preuve que ça a pris un certain temps. Le dernier, c'est arrivé hier soir avec Transcontinental. Donc, oui, des fois, ça peut donner l'impression qu'on attend trop. Mais moi, je pense qu'il faut respecter nos contrats. Et puis, de toute façon, au bout de la ligne, vous avez le conseiller en éthique. À chaque fois qu'on se fait élire, on passe par là. Et puis, j'aurais pu passer. Mais moi, je suis content qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir la liste complète, tout simplement.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben écoutez, ce que j'en pense, c'est que pour moi, c'est problématique que M. Coderre, qui se présente à la mairie, qui savait qu'il allait se présenter à la mairie, ait accepté, par exemple, un contrat de Transcontinental qui, on le sait, avait participé à une consultation sur l'avenir du Publisac. Et quand vous avez accepté quand vous avez dit que vous reveniez dans la course, c'est à ce moment-là que vous auriez dû faire preuve de transparence parce que on s'entend, Transcontinental a un rôle à jouer dans les politiques publiques. Alors, quand on veut devenir maire, la population veut savoir quels sont les liens qu'on a eu avec le privé. C'est pas d'avoir travaillé au privé le problème, c'est d'attendre, d'être acculé au pied du mur, de dire bon ben finalement je vais le dire. Mais moi je suis très très embêtée pour Transcontinental parce qu'il faudrait dire un élément qui est important. Francesco Mieli, qui est le président de la campagne de M. Coderre, était le vice-président de la commission sur l'environnement où on a parlé du Publisac et où Transcontinental a dépensé tant d'argent pour plaider sa cause. Les Montréalais veulent savoir qu'est-ce que ça peut cacher. Alors, il faut faire preuve d'intégrité là-dedans.
Je sais que Mme Plante a avoué qu'elle était loin du secteur privé. Là. La réalité, c'est que Transcontinental est une entreprise québécoise familiale exceptionnelle. Il y avait des enjeux aussi pendant la pandémie. La preuve, le dossier de Publisac n'a pas été complété. Mais pour moi, ce qui est important, c'était de se dire que pour l'Est de Montréal, il y avait une entreprise qui voulait installer une usine. Donc, c'était soit dans l'Est de Montréal ou soit aux États-Unis. années. Et puis, j'ai donné des conseils stratégiques en matière de, en matière de, au niveau de l'économie circulaire. Et puis, il y a eu de toute façon, vous parlez de Francesco. Il y a eu de toute façon un rapport unanime. Alors, on ne doit pas chicaner.
Mais il n'y a pas quand même un enjeu. C'est-à-dire que les gens pour qui vous avez travaillé, Cogir, ils sont dans l'immobilier. Mm-hmm. Transcontinental, il y a les sacs, puis il y a d'autres enjeux. Est-ce que quand on a été consultant pour des entreprises comme ça, avec lesquelles il y a des enjeux à la ville de Montréal, il n'y a pas un problème? Il n'y a pas une ligne directe qui est établie
y
là entre...
Il n'y aura pas de problème, M. Arcand. Dans la mesure, de toute façon, je l'ai dit hier, au niveau de Cogir, ils sont dans l'immobilier. Quand il va y avoir des dossiers qui vont toucher la ville et Cogir, je vais en retirer. Comme j'ai fait à l'époque, j'avais aucun revenu pécunier par rapport à une concession automobile, mais vu que le propriétaire est un ami qui avait fait des soumissions pour le matériel roulant, tu te retires. Tu sais, à un moment donné, tu as le droit de gagner ta vie, puis tu as un travail à faire en ce sens.
On a le droit de gagner sa vie, mais vous avez choisi, tu sais, parce que là-dedans, vous êtes maître de votre destin, là. Vous avez quand même choisi jusqu'à la dernière minute de travailler pour Transcontinental, qui a dit clairement que si on enlevait le Publisac, il n'y aurait pas d'usine dans l'Est. Alors au final, là, moi je trouve ça problématique de se présenter à la mairie pour avoir d'avoir travaillé comme consultant pour une entreprise qui donne des appels d'offres qui influence les politiques publiques de Montréal.
Bon, écoutez, ça fait 40 ans que je suis en politique, là. Moi, je pense que de toute façon, Madame Plante aime beaucoup parler de ça parce que pendant ce temps-là, on parle pas des enjeux, puis on parle pas de son propre bilan. Alors, c'est de bonne guerre, mais je pense que les gens comprennent que c'est pas, y a pas un problème d'intégrité.
La seule personne à blâmer là-dedans, M. Coderre, c'est vous.
Et que tout ce que j'ai fait, je l'ai bien fait, puis je vais continuer à le faire. Et puis, je pense que l'important, les Montréalais veulent savoir pourquoi qu'on une ville moins sécuritaire, qui est plus sale. Et puis, vous avez vu encore dans le village ce matin, on a parlé de problèmes de sécurité majeurs. Et puis, Mme Plante est la mairesse de Ville-Marie. Ben, c'est ça, la réalité.
Là. En fait, pendant la campagne, tout ce qui touche la sécurité, la transition écologique, l'habitation, parce qu'on pourrait en parler de l'habitation. Puis
mais
vous
si vous permettez, je vais juste reprendre, parce que j'avais une question là-dessus à suite de témoignages. J'ai des commerçants qui me parlent, notamment dans ce coin-là, d'édifices abandonnés, des gens qui squattent, ils appellent la ville, ils appellent la police, il n'y a rien qui se passe. Un restaurateur, là, il vient de perdre son local, il y a eu un incendie majeur vendredi dernier. Oui. Puis on pourrait soulever des problèmes dans d'autres arrondissements de Montréal. Vous allez faire quoi pour protéger ces commerçants-là?
Bien, en fait, il y a plusieurs éléments qui ont été mis en place, que ce soit au niveau du certificat d'occupation. C'est travailler aussi avec les propriétaires pour qu'ils s'occupent de leur bâtiment, parce qu'il y en a qui décident de le laisser se délabrer jusqu'à un point où il faut le démolir. Alors, c'est vraiment de resserrer les règles. Et c'est ce qu'on a fait pendant les quatre dernières années. Dans le village, ça a été difficile, parce que vous le savez, il y a eu beaucoup d'enjeux de cohabitation. Tout le monde était d'accord pour aider les plus démunis. Mais c'est vrai que ça a amené quand même un problème de cohabitation.
Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on parle comme voici ce que je vais faire si je deviens mairesse. La réalité, c'est que pendant 4 ans, la ville est moins sécuritaire, puis on n'a pas travaillé en conséquence. Puis vu qu'on est en campagne électorale maintenant, c'est facile de dire je vais avoir des engagements, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là? Quand on va sur le terrain puis qu'on parle avec les gens, on se rend compte, comme Mme Brière là, pour le dossier d'Alexis, Montréal n'est pas exemplaire sur le plan bureaucratique. La main gauche, c'est pas ce que la main droite fait.
Et le rôle.
Mais je vous ai laissé parler, Mme Plante, c'est mon tour. Moi, j'ai pas de problème. Mais je veux dire, c'est parce que la réalité est là. Je veux dire, il faut garder les faits, et les faits, c'est qu'on s'en est, on s'occupe pas des commerçants.
Madame Plante.
En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va s'entendre sur plusieurs enjeux, mais au-delà des phrases creuses, M. Coderre, vous amenez jamais rien de concret. Comme là, vous parlez, que ce soit du village, mais qu'est-ce que vous proposez? J'aimerais ça que, comme j'ai répondu concrètement, pourriez-vous répondre concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire pour aider les commerçants?
Ah, je suis content parce que justement, étant donné qu'on est proche de ce milieu-là, puis on leur a parlé, on a mis en place un plan au niveau des SDC, notamment en matière de propreté. On va redéfinir la fiscalité, notamment, vous avez parlé des restaurateurs avec raison. Moi, j'ai au moins 7 candidats qui sont chefs ou propriétaires et qui ont vécu la pandémie, puis qui ont vécu la bureaucratie municipale. Donc, on va travailler au niveau de la taxation. On avait déjà à l'époque, et vous en avez profité, où avec notre comité, on a mis en place la taxe non résidentielle à 1% pour les 10 prochaines années. Donc,
est-ce que je pourrais avoir du temps d'antenne? Parce que, M. Coderre, vous prenez vraiment beaucoup de place, là. Ce que je trouve fascinant dans tout ça, c'est à quel point les promesses qui sont mises de l'avant, c'est des choses qui, sous son administration, M. Coderre, n'a pas mises en place. Alors, si ça avait pas été de nous au niveau de la taxation non résidentielle pour aider les commerçants, ça se serait pas fait.
Mais là, je me mets à la place des auditeurs 2 secondes. Là. Vous dites, lui, il était là 4 ans, il l'a pas fait. M. Coderre dit, vous avez été là, Vous ne l'avez pas
mais
fait.
Non, ou... on le fait. La taxation, c'est nous qui l'avons mis en place. C'est pas M. Coderre. On est rendu avec un rabais de taxe jusqu'à 16 % pour un restaurant comme Schwartz. Ça, c'est 1 300 de moins sur sa taxation. C'est pas M. Coderre qui a fait ça. C'est nous. Okay. Parce qu'au niveau des petits commerçants, des artères commerciales locales, pour nous, ça a toujours, ça fait partie de l'ADN de Projet Montréal.
Septembre 2017. On a mis en place, on a pu obtenir la loi du statut de métropole. Et ce statut de métropole a changé la loi des cités et villes, donnant beaucoup plus d'autonomie aux municipalités et avec un pouvoir compensatoire et un pouvoir subventionnaire. Donc, à chaque fois que maintenant, on peut faire des annonces de ce style-là, c'est à cause du statut de métropole.
Il y a une étude ce matin qui est publiée dans le Journal de Montréal qui dit que Montréal est la ville qui étouffe le plus ses commerçants là, en taxes foncières. Est-ce que vous reconnaissez que Montréal étouffe ses commerçants?
Ben, c'est pour ça qu'on l'a diminué de 16 % pour les petits commerçants. Mais oui, mais on s'entend. Quand on est arrivé en poste, la demande traditionnelle là, que tout le monde demandait, c'est diminuer l'écart entre le résidentiel et non résidentiel. On l'a baissé de 16 % dans notre premier mandat. 3 années consécutives, ça touche 90 % des commerces. Et là, quand on propose, par exemple, sur les artères commerciales, d'aider les commerçants, les SDC, à acheter des bâtiments pour pouvoir les occuper, c'est du très, très concret, puis c'est basé sur les demandes du milieu. On sort pas des choses de notre chapeau, là. C'est vraiment très précis et c'est documenté.
Oui. Oui, c'est tout à fait vrai qu'il y a un problème au niveau des commerçants. C'est pour ça qu'avec cette capacité compensatoire et subventionnaire, on est capable de faire des choses. Il faut réévaluer toute la fiscalité, puis avec le fait qu'on l'avait fait au niveau de la taxe non résidentielle. Mais comme par exemple, on a mis sur pied un programme de 25 millions justement pour aider les commerçants. On a dépensé juste 8 millions.
Ah, monsieur Arcand, d'ailleurs, c'est intéressant parlant d'argent parce que tantôt on a passé de sujet, mais j'aimerais ça quand même vérifier un élément, c'est que en date d'aujourd'hui, la campagne finit demain. On n'a toujours pas le cadre financier de monsieur Coderre. C'est la première fois qu'on voit un parti déposé, j'imagine que c'est aujourd'hui ou demain, mais à si près de l'échéance, parce que là, vous parlez de montant, M. Coderre, mais on ne sait pas. On ne sait pas combien ça va coûter. Et moi, je l'ai dit tout de suite, 172 millions, nos promesses. On a hâte de voir
les... On va voir le cadre financier dans les prochaines heures, mais ce que je trouve drôle, c'est que de toute façon, quand on calcule le cadre financier de Mme Plante, elle dépense même après son cadre financier, notamment le vu la lumière pour amener 250 policiers de plus maintenant.
Alors, moi, je vous le dis, notre cadre financier, c'est 172 millions de dollars pour les 4 prochaines années. J'ai très hâte d'entendre M. Coderre nous dire combien, parce que M. Coderre adore faire peur aux gens en disant qu'on dépense, alors qu'au contraire, les experts ont dit que notre cadre financier était extrêmement rigoureux.
Alors, je vous laisserai vous chicaner plus tard aujourd'hui. C'est
bon,
les cadres financiers.
Plus tard.
mais je veux vous amener sur un cas qu'on a vu cette semaine d'un enfant de 12 ans qui est lourdement handicapé. Pendant des mois et des mois, ses parents ont tenté d'avoir un permis pour aménager une plateforme extérieure. Il a fallu qu'on en parle.
Oui.
Et la mère nous a contactés hier. Là, tout le monde a appelé en disant, je pensais qu'on l'avait, mais j'ai pas vu votre dossier. Oui. C'est tombé en deux chaises. Comment ça se fait?
Ben, c'est pas acceptable. On s'entend, là. Puis, vous avez fait toute l'histoire. Fait que je vais pas la refaire avec vous, là. Définitivement,
c'est le seul cas.
Ben, il y a plein de cas qui fonctionnent bien, mais il y a des cas, un cas comme ça. Puis quand on est obligé de se retrouver devant les médias pour trouver une solution, pour moi, c'est désolant. Je constate que les services de la ville font un excellent travail. Mais une des raisons pour lesquelles pendant notre mandat, on a déplacé le plus possible, comment dire, donner des contrats simples via Internet pour laisser des cas complexes comme celui-là se faire. Alors, je suis désolée d'entendre cette histoire-là. Puis, évidemment, il y a eu des conversations parce qu'effectivement, elle s'est tombée entre les cracks. C'est pas acceptable.
Écoutez, la ville
comment vous allez rendre la bureaucratie plus efficace?
La ville n'est pas exemplaire. On peut penser aussi à M. Claude Varin, là, 70 ans, qui a un problème d'ascenseur parce que ça fait 15 ans qu'il a la sclérose en plaques, puis c'est dans Rosemont. Vous avez le problème qu'on voit la lumière quand on donne des permis de terrasse quand dans le plateau Mont-Royal. Vous avez le cas du pauvre Alexis, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça prend une ville exemplaire. Pour ça, ça prend plus de mesures d'imputabilité. On doit redéfinir le service aux clients. Ça n'a pas été fait, mais là, c'est la campagne électorale. Fait qu'inquiétez-vous pas, on va le faire. Moi,
vous
je pense qu'on a besoin
fascinant.
De changer les modes parce qu'à l'époque, on l'avait fait notamment sur le service du 3-1.
Okay.
Là, faut arrêter de dire, je vais le faire.
Ouais.
On ne l'a pas
Madame
fait.
Plante.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des définitivement, comment dire, il y a des priorités du côté de Ensemble Montréal. Vous savez qu'il y a des gens qui présentement la crise du logement, c'est l'enjeu numéro un des Montréalais. Eh bien, tous les arrondissements d'Ensemble Montréal, aucun n'ont mis en place des règlements pour les rénovictions. Et Monsieur Coderre a même dans son équipe un flipper professionnel qui met à mal plein de résidents qui arrivent même pas. Alors, avant même de parler de permis, j'ai envie de vous dire que les gens ils ont envie de se loger, Monsieur Coderre. Puis à ce niveau-là.
Si...
Vous êtes extrêmement mal placé avec vos possibles conflits d'intérêts.
Le problème, Mme Plante, c'est que moi, je pense au jeune Alexis, là. Madame Brière avait des réponses. Elle veut pas se dire, elle va vous donner une tape dans le dos parce que les élections s'en viennent. Puis si Paul Arcand parle pas, ça marche pas. Alors moi, je pense que ce qui est important, c'est de répondre aux questions. Puis les gens qui sont déjà dans leur logement, s'ils ont cette capacité-là de pouvoir vouloir rester ici, qu'est-ce qui va arriver okay. là s'il y a pas de permis? C'est ça,
les... Je vais conclure avec quelques questions rapides oui, qui supposent des réponses pas trop longues.
Parfait.
OK. On a vu encore des chiffres qui montrent l'exode de familles vers les couronnes de Montréal et parfois la deuxième couronne. Un, avez-vous l'intention d'aller chercher des revenus dans ces couronnes, de taxer davantage les gens qui ne vivent pas à Montréal?
Ce qu'on a de besoin, c'est un leadership au niveau de la CMM. On avait de toute la question de l'écofiscalité. Il y a la question aussi de comment on peut, comme à Londres, au niveau du centre-ville. Donc, nécessairement, on a besoin d'une gouvernance accrue. Et pour ce faire-là, c'est pas de travailler à vase clos comme le 20-20-20. C'est que tout le monde doit le faire.
Moi, ma question, c'est est-ce que vous voulez chercher plus de revenus dans les poches des gens des couronnes?
Moi, ce que je veux, c'est qu'on contrôle les dépenses avant parce qu'on a dépensé 1 milliard de plus.
C'est d'aller chercher plus de revenus, entre autres, au niveau du transport collectif à l'extérieur des couronnes pour nous aider la région métropolitaine, parce que c'est seulement nous qui, entre autres, c'est une grosse facture pour le transport collectif.
OK, je poursuis avec vous. Pour les 4 prochaines années, il va y avoir plus, moins ou autant de chantiers à Montréal?
Je pense qu'il va, au niveau de la ville, il va en avoir moins. On les a baissés de 40%. Par contre, les chantiers privés, je pense qu'il va en avoir plus parce que ça construit à Montréal et ça montre pourquoi notre économie va si bien.
Donc, autant?
Ouais, je pense
probablement.
Que... Ben, écoutez, c'est dans la gestion des chantiers. Je veux dire, la réalité, c'est qu'on a promis
c'est
la mobilité
la question,
et tout ça. On a voit que
la question, c'est est-ce que vous pensez que ben, devenez maire de Montréal, est-ce qu'il y a plus, moins ou autant de
chantiers? J'espère qu'il y en ait plus, mais j'espère qu'il y en ait mieux, qu'on fasse les choses correctement puis adéquatement.
OK.
Alors ça se fait, mais ça, faut connaître le dossier, puis faut connaître le travail qui doit se faire sur le terrain.
OK, vous avez été maire de Montréal, vous êtes la mairesse de Montréal, 4 ans au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez retenu, d'abord, M. Coderre, de votre expérience? Et vous dites, ça, si je retourne à la mairie, faut que je change une des façons de faire que j'avais à l'époque.
Oh, c'est sûr que vers la fin, tu as l'air trop arrogant, puis il faut que tu démontres une distinction entre la détermination et l'arrogance, mais je m'excuserai jamais. On a besoin de ramener le sens de la métropole, parce que pour l'instant, on a
l'invillage. Alors, pour répondre, parce que c'est pas là, encore une fois, vous me demandez une réponse concrète, moi, je veux encore plus consulter les citoyens puis faire des retours sur les consultations pour que les gens se sentent partie prenante, comme on le fait, entre autres, avec le budget participatif. Ça, pour moi, c'est un apprentissage.
Des 4 années que vous venez de passer au pouvoir.
Oui, absolument. OK. Parce qu'il faut être capable de faire l'introspection et se questionner. Personne n'est parfait, mais je pense qu'on doit aspirer à être toujours une meilleure personne, une meilleure mairesse.
OK. Sur une échelle de 1 à 10.
Ah, ça, c'est la question. Là,
de temps en temps, il faut en poser.
Est-ce que le Canadien fait les séries?
Non, ça, c'est pas... mais sur une échelle de 1 à 10, Montréal, la propreté, vous donnez quelle note?
Ah, la propreté, moi, je dirais un 7.
7.
1.
Oh my God.
La ville est sale. On a besoin de s'assurer qu'on puisse faire. Tout le monde en parle. Partout dans tous les arrondissements.
Mais quel message on envoie aux touristes? Quel message on envoie aux étudiants? Je trouve ça tellement irresponsable de votre part. La ville est dangereuse. La ville est sale. C'est incroyable. Je trouve ça déplorable.
OK. Sur la police, est-ce que là, je comprends que vous êtes à la même place tous les deux d'augmenter, non?
Non,
le nombre de policiers, vous êtes à la même place.
Oui, mais c'est là où ça s'arrête parce que notre plan, nous, on n'a pas juste donné un nombre de policiers sans dire où est-ce que ça irait. Communautaire, ELTA, groupe criminalisé, nous, c'est très précis. Le monsieur Coderre, c'est plus abstrait.
C'est plus abstrait. On a un plan qui a été salué par tout le monde. Écoutez, je salue votre vocation tardive parce que dans le fond, vous êtes un parti pour le désarmement puis le définancement.
Ah, voilà, là, on revient à ça. À chaque fois, on revient à ça.
Vous avez Will Prosper, vivez avec.
Mais c'est vous qui avez définancé la police. Ça a été réglé ici, Monsieur Arcand, Monsieur Coderre.
La question, c'est que on a un problème de policiers, il y en a moins qu'avant. Deuxièmement, on a besoin d'investir davantage au niveau de tout ce qui touche le communautaire. On a besoin de travailler pour qu'on puisse assurer qu'il y a les outils propices. Ah, alors nous, on a l'écosystème
c'est
pour le faire.
C'est une question rapide, une réponse
la crédibilité
rapide.
Pour le régler, M. Arcand.
OK. on a vu la liste des demandes de l'agence métropolitaine.
Oui.
Quand Québec dit, allez préciser quelles sont vos priorités. Trouvez-vous d'abord que de présenter 57 milliards de projets, ça a de l'allure quand on sait qu'un gouvernement doit choisir quand même?
Ben, en fait, le travail était fait en bonne et due forme par la RTM sur laquelle siègent des indépendants puis des élus. Et, le gouvernement nous a appuyés, nous a suivis tout le long. Alors, c'est sûr que quand on a présenté le plan, on a été un peu surpris que le gouvernement du Québec nous dise, ah, ben, finalement, faut refaire un autre tour de roue. Mais on travaille avec eux. Puis, au final, je constate que la région métropolitaine, quand il n'y a pas eu d'investissement depuis 25 ans majeur, on est en rattrapage. Alors, c'est important.
OK.
Ben, M. Arcand.
Oui.
Le maire de Montréal siège à la RTM. Le président de la CMM. Alors, à un moment donné, il faut démontrer du leadership puis assumer en conséquence. Alors, c'est sûr que quand
pouvez-vous
arrive
répondre
avec
57, à la question, monsieur.
Non, mais avec 57, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de sens, OK.
Hein, je veux dire, on se trompe de couleur de ligne de métro trop souvent.
Quelle est la priorité, selon vous, pour Montréal, que le gouvernement du Québec devrait avoir en tête? S'il y en a une, il ne faut pas en avoir 12, là, mais une priorité. Vous dites ça, là, dis à François Legault, là, ça, là, pour Montréal, c'est ma priorité. Ce serait quoi?
C'est l'habitation, parce que le gouvernement du Québec n'a pas réinvesti en logement social 2 ans d'affilée. Il faut pouvoir loger notre monde pour garder de la mixité dans nos quartiers.
On a les fonds, on a les pouvoirs pour le faire en matière d'habitation. Au niveau du logement social, de toute façon, vous avez une entente Québec-Canada.
Mais ma question, c'est sur Québec. Sécurité. Vous êtes à François Legault, ma priorité comme maire.
Ma priorité, c'est la sécurité, puis c'est les lignes 2.
Sécurité. Bonne fin de campagne à tous les deux.
Merci beaucoup, M. Arcan.
Et on va suivre ça avec intérêt jusqu'à lundi matin.
Ben, merci, M. Arcan.
Merci.
Valérie Plante, Denis Coderre, c'était notre tour de piste sur les élections à Montréal.
L'essentiel de Paul Arcan.
On va maintenant parler de la position de Québec qui passe de la vaccination obligatoire au dépistage obligatoire. Le constat, c'est que le noyau dur des récalcitrants ne permet pas d'atteindre l'objectif. Et ça voudrait dire, si on appliquait le décret avec des suspensions sans solde, ça veut dire que les services seraient moins bons et que ça mettrait le réseau donc en danger. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est avec nous, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
C'est un noyau dur là que vous n'arrivez pas à convaincre par toutes les stratégies que vous avez utilisées jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'ils vont rester non vaccinés pour la plupart, là. C'est ce que je comprends.
Ben écoutez, je pense que vous savez que je suis pas à l'aise avec ce principe-là, que des gens de la santé qui travaillent dans la santé soient non vaccinés. Là. Je veux juste être bien clair avec ça. Puis c'est pas une décision que j'ai aimée. Mais en même temps, je vous dirais, M. Arcan, que je pense que les gens comprennent, là, même s'ils sont mal à l'aise, un peu comme moi, de cette décision-là. Les gens comprennent que l'autre alternative, c'était de laisser partir ces 8000 personnes-là, qui avaient deux impacts. Le premier, c'était d'avoir des situations comme on a à la Chine en ce moment, où on doit fermer des urgences par manque de personnel. Puis ça, imaginez-vous, le 8000 personnes, tout d'un coup, là, on parle d'à peu près 500 endroits où il y aurait eu des impacts comme ça. Moi, je pouvais pas accepter ça en termes de services pour nos Québécois. Le deuxième, c'est que je me suis engagé envers le personnel. Puis ça, c'est important là, que les gens le comprennent bien, qu'il n'y aurait plus de TSO, qu'il n'y aurait plus de main-d'œuvre indépendante, parce que c'est la seule façon de faire revenir des infirmières puis du personnel. Si on avait congédié tout d'un coup les 8000 personnes qui restaient, comment je peux arrêter de faire du TSO, puis etc. Donc, c'est les deux raisons qui nous ont guidés dans cette décision-là. Mais en même temps, j'ai dit au PDG, assurez-vous qu'à tous les jours, quand vous êtes capable de remplacer un non-vacciné par une nouvelle personne qui rentre, bien, vous le faites. Alors, okay. on va essayer que ça se fasse par étapes.
Est-ce que je comprends que les 3 tests de dépistage sont aux frais de l'employé?
Non. On a pris la décision, puis d'abord, premièrement, les tests nous sont, comme vous savez, M. Arcan, nous sont fournis par le fédéral, mais ce qu'on s'est assuré, c'est qu'ils soient en dehors des heures du travail. Parce que moi, je voulais pas avoir comme excuse de l'employé, ben c'est pas à moi de fournir ça, c'est pour le travail. Donc, oui, c'est à nous de l'administrer, OK, on se comprend, c'est un test qui est payé par le fédéral, mais en même temps, il est en dehors des heures de travail. La personne doit arriver avec son test négatif pour être capable de faire son corps de travail.
Et les gens qui voudront même pas se faire dépister, eux, vont être relevés de leur fonction. Là. On a vu ça à Québec, entre autres.
Oui, on l'a vu à Québec, on l'a vu en Outaouais. Là. J'ai été très, très clair avec les PDG hier. Là. Il n'y a peut-être pas toujours eu la rigueur que je me serais attendu dans les tests dans les dernières semaines. Alors moi, je vais avoir un rapport maintenant toutes les semaines. Tant que j'ai 8000 personnes, ben ça me prend 8000 fois 3 tests par semaine, 24000 personnes qui sont testées. Puis il y a des gens qui vont être imputables pour la réalisation de ces tests-là.
Sur l'autre front, comment ça se passe, le recrutement d'anciens du réseau, des gens qui sont soit à la retraite, soit au privé, là, le retour de ces 4000 infirmières que vous cherchez à embaucher?
Pas assez vite à mon goût, pour être très franc. Puis une des raisons, c'est que j'ai pas beaucoup de support de toutes les centrales syndicales. Alors, donc, on a refait le point avec eux cette semaine. Il y a quelques rencontres. Il y en a encore aujourd'hui puis demain. Puis on va voir vraiment où sont les points d'achoppement. Là. C'est quoi qui fait qu'il y a encore de la résistance pour que s'il y a des ajustements à faire, très ouvert à en faire aux besoins. Et la semaine prochaine, pour qu'on puisse, devant, on a plus de 3000 personnes qui sont intéressées à revenir, mais ils ont besoin d'avoir un programme qui est clair. Je le répète, là, c'est au syndicat de vous aider de le faire. Alors, on va le faire.
OK, parce que là, ce que je comprends, les échos qu'on a, c'est qu'il y a des interprétations de la lettre d'engagement pour ce qui est des congés sans solde. C'est pas bon. Bref, ils ont l'impression que c'est pas clair, puis c'est pour ça qu'ils signent pas.
Ben écoutez, dans toute situation, il y a une part des deux côtés. Là. Moi, j'ai demandé à mon équipe d'essayer de simplifier. J'ai vu une lettre qui avait été envoyée que je trouvais un petit peu complexe. Alors, donc, de notre côté, on va modifier des choses, on va simplifier les conditions parce que on n'est pas là pour éviter de payer la prime. Là. Moi, je veux que les gens reviennent puis qu'ils aient accès à la prime.
Okay.
Donc, peut-être que c'était un peu compliqué. Mais par contre, pas peur de le dire, du côté des syndicats, il y a des demandes qui sont non acceptables. Alors, on va discuter avec eux, mais on n'est pas en négociation. On est en discussion avec eux. On va faire des modifications que je juge raisonnables la semaine prochaine. Puis les gens qui veulent revenir, il y en a plus de 3000. Donc, c'est important qu'on finalise ça.
OK. Je voudrais vous parler des médecins de famille, les médecins omnipraticiens. M. Legault a brandi, évidemment, la possibilité du bâton, là, c'est-à-dire de se servir des dispositions de la loi puis couper la rémunération des médecins si les médecins ne prennent pas assez de patients. Puis on sait que la file d'attente est longue. Là. Moi, j'entends depuis hier, là, Québec fait peur. Québec menace avec un décret de suspendre des employés. Les médecins, vous les menacez. Il y a bien des médecins qui disent, ben là, ils vont finir par reculer comme ils l'ont fait avec le décret sur la vaccination.
Ben, premièrement, je pense qu'on parle de deux choses complètement différentes. Moi, je pense que là, je reviens à la vaccination. Là, si vous voulez faire la comparaison, les gens veulent le faire. Je pense qu'on a eu quand même un succès à 97 % et je pense qu'on va trouver, avec le temps, on verra dans les prochaines semaines, on va se retrouver avec un environnement de bien vacciner. On a repris la décision de la faire par étape. Alors, on n'a rien perdu. C'est juste une question de temps. Ça, c'est mon opinion. Sur les médecins de famille, je l'ai dit, on ne réglera pas à rabais tant qu'on n'aura pas des données fiables. Les médecins le comprennent. Maintenant, moi, j'ai accès à des données. Je veux avoir une discussion avec les faits. Ça fait plusieurs fois que je dis ça. Là. Puis à chaque fois, j'ai dit au docteur Godin, quand vous voulez partager les mêmes faits, on va s'asseoir et on va négocier ensemble. Il y a plusieurs façons d'avoir les faits. Vous allez voir, on va finir par s'entendre. Mais on va trouver une façon que les deux parties se comprennent bien. On a les mêmes objectifs. Réduire le nombre de Québécois qui n'ont pas un médecin de famille. Mais aussi, je le répète, accélérer les gens quand ils veulent prendre un rendez-vous. Ce n'est pas uniquement d'avoir un médecin, c'est d'être capable de prendre un rendez-vous à l'intérieur de 36 heures.
Mais le docteur Godin, lui, docteur Godin prétend qu'il manque de médecins à la base, c'est-à-dire qu'on aura beau faire toutes les opérations, il dit qu'il manque 1000 médecins au Québec. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'il en manque 1000?
Ben, écoutez, c'est là-dessus que je dis, quand on veut s'asseoir puis parler des faits, moi, je veux qu'il me prouve qu'il manque 1000 médecins, puis moi, je vais lui dire qu'il manque pas de médecins. Il y a une organisation du travail qui est déficiente. Tout le monde le dit. C'est une organisation de travail qu'il faut repenser. Comment on gère nos GMF? Comment on a accès à les heures d'ouverture des GMF? Comment nos médecins travaillent dans les CLSC? Comment nos médecins de famille mettent du temps à l'urgence? C'est l'organisation du travail. Je pense que c'est pour ça qu'il faut s'asseoir ensemble puis regarder d'avoir les bonnes données pour être capable de négocier.
OK. Dernière question. Il semble, je dis ça ce matin, que Québec songe à limiter les permis pour de nouvelles cliniques privées de chirurgie pour éviter une fuite du personnel là, vers ces établissements privés. Est-ce que c'est vrai que vous allez limiter le nombre de permis?
Oui. Moi, je suis un petit peu tanné de l'exode de nos infirmières du côté du système privé. Il y a eu un très bon compromis avec des cliniques qui sont complémentaires à nous. Puis je m'explique. Lorsqu'on a eu besoin de faire des chirurgies qu'on pouvait pas faire dans le réseau pour toutes sortes de raisons, je pense que ces cliniques-là que ce soit pour des cataractes ou peu importe les opérations, étaient complémentaires à nous, puis ça nous a très bien servi. Maintenant, des cliniques, par exemple, de soins esthétiques, etc., on est moins ouvert à ça parce que c'est une place où on perdait beaucoup de nos infirmières. Puis je pense qu'il faut, en ce moment, donner une priorité au réseau.
Merci, M. Dubé. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
L'actualité publie un article écrit par Marie-Hélène Proulx qui a en fait recueilli les propos d'Antonin Mousseau-Rivard, qui est le chef propriétaire du restaurant Le Mousseau, à qui on parle assez souvent, on l'a vu dans la période de pandémie, et qui fait un peu une analyse de son milieu de travail, de son industrie, et de façon assez détaillée, pour nous dire que c'est peut-être la dernière chance qu'il accorde à sa passion pour la cuisine. Il est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça va si mal que ça, dans la restauration?
Écoutez, c'est, il y en a pour qui ça va très bien, il y en a pour qui ça va mal. C'est vraiment dur de séparer les situations, parce que pendant la pandémie, il y en a pour qui, il y en a qui en ont profité beaucoup, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent, là. On en a parlé souvent, les places à poulet ou les places à pizza, puis à pâte, les places qui font beaucoup de rendement, en fait, sur ce qu'ils vendent. Donc, je veux pas dire que c'est un milieu qui est dévasté de tous les côtés. C'est un milieu qui a énormément de problèmes, qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on fasse changer certaines choses. Mais moi, faut comprendre que je prends position dans ma partie qui est vraiment la position gastronomique.
C'est sûr.
Donc, je veux pas parler dans le nom de tous les restaurants ou quoi, au nom de tous les restaurants. C'est vraiment pas ça mon but. Mon but, c'est de dresser un portrait vrai et réaliste de ce que c'est d'avoir cette passion pour la gastronomie et des coûts qui viennent avec.
Parce que l'image qu'on a souvent, c'est que quand le prix d'un plat est élevé, c'est que la marge du propriétaire est élevée.
C'est tout le contraire. C'est plus, moins c'est cher, plus les marges sont élevées. Donc, c'est vraiment, on prend des exemples comme des rôtisseries ou des affaires comme ça. Je veux dire, les marges sont énormes sur ce qu'ils font. Tandis que plus on monte dans les prix, ben, moins on peut faire le fameux 3 fois, là, qui est habituellement la règle de j'achète quelque chose à un prix, je le vends 3 fois le prix. Ça devient de plus en plus dur, puis la gastronomie, il faut comprendre que c'est un luxe. J'en suis conscient. C'est pas, je parle pas ici de la nourriture, de manger, de nourrir les gens. Je parle de ce qui va au-dessus de ça, des expériences. Des gens qui veulent se payer un repas chez nous, c'est parce qu'ils recherchent quelque chose. C'est pas, on s'est levé un jeudi matin, puis on s'est dit, on va-tu manger au Mousseau à soir? Tu sais, ça vient avec tout ça. Puis, je pense que dans mon texte, le fond, en gros, c'est de dire, écoutez, on aime nous prendre en image, dire, regardez les restaurants qui rayonnent partout dans le monde et tout ça, mais on nous aide pas au même titre que plein de festivals ou plein de, moi, je pense qu'il manque d'intérêt quand vient à parler de la gastronomie et du rayonnement que ça
mais
donne.
Si je prends la période avant la pandémie.
Oui.
On a vu là, les restos de gastronomie s'afficher puis d'avoir du rayonnement puis d'attirer oui. du tourisme à Montréal puis bon Joe Beef puis oui. Martin Picard puis on peut tous les nommer. Qu'est-ce qui a fait que le portrait a changé? Juste la pandémie?
Ben écoutez, la pandémie a été en fait le moment où est-ce qu'on a pu s'arrêter. La restauration aurait jamais arrêté comme elle a arrêté pour qu'on puisse s'y attarder, prendre un recul puis regarder, dire les problèmes sont ceux-ci, ceux-là et d'essayer de les régler. Donc ça a un peu aidé. Puis c'est sûr que le fait que le tourisme a chuté, ben nous, pour nous, c'est presque 25 à 35 % là, de notre clientèle. Donc moi, ce qui m'inquiète un peu en ce moment, c'est le temps que ça va prendre. Moi, c'est bien beau, j'ai un appui total des Montréalais, des Québécois qui viennent chez nous, qui me disent vraiment là, qui vont continuer à venir, mais à un certain point, on va avoir besoin du tourisme aussi. Et puis moi, je parle du fait que avant que la crise arrive, Ben, ça fait des années qu'on peut prouver que les restaurants, certains restaurants de Montréal, à peu près une dizaine de restaurants de Montréal, peuvent être responsables d'une grande partie du tourisme. Parce que le tourisme maintenant, c'est du tourisme gastronomique. Il y en a beaucoup de gens qui vont se dire, hey, on va à Montréal, on réserve au pied de cochon, au Toqué, au Mousseau, tu sais, puis après ça, ils se prennent un hôtel, un Airbnb, ils vont voir un show. Tu sais, on fait partir du tourisme, puis on a l'impression de ne pas être épaulé là-dedans, parce que comme vous l'avez bien dit tantôt, les gens ont l'impression qu'on fait de l'argent les grands restaurants, mais on n'en fait pas. C'est une passion, la gastronomie, avant tout. Puis de faire passer, ce que je dis dans l'article aussi, c'est que de faire, on est rendu à une époque où je pense qu'il faut que les gens acceptent que là, il faut qu'on mette de l'avant les gens qui travaillent pour nous, qu'on leur fasse attention et puis qu'on change la mentalité qu'il y a derrière tout ça.
Mais c'est intéressant parce que on a souvent parlé, vous avez déjà pris des positions publiques, là, en disant faut payer notre monde correctement. Oui. Puis c'est pas vrai que il faut les exploiter puis que ils vont partir puis oui. C'est bon. Et la pandémie a peut-être amené ça aussi de voir des gens là dire un peu le chef je le paye combien puis oui. le sommelier je le paye combien. Puis tout ça fait que il y a un prix total à payer comme on disait tantôt oui. là, il y a un coût réel à ça.
Oui, il y a des coûts réels puis ça fait des années que les salaires en cuisine n'ont pas vraiment augmenté. Les conditions de travail, oui. Là, je reçois beaucoup de messages face à l'article comme quoi c'est pas vrai que rien n'a changé. Oui, je l'avoue, les choses ont commencé à changer, mais il faut que ça change plus. Il faut vraiment s'occuper de ces employés-là. Parce que sinon, la crise, on voit le top de l'iceberg en ce moment, mais dans quelques années, s'il y a plus personne qui va à l'école, s'il y a moins d'intérêt pour aller dans les écoles culinaires, parce que on voit pas vraiment d'avenir à ça, ou on voit des conditions.
Ben justement, il y a un auditeur qui m'écrit, je regardais ça, qui oui. dit que l'Institut d'hôtellerie du Québec, la clientèle, le nombre d'étudiants a baissé, paraît-il.
Oui, absolument, le nombre d'étudiants a baissé, le nombre de gradués a baissé aussi, puis il y a beaucoup de monde qui vont étudier là-dedans, qui sortent, puis qui réalisent. Hey, wow, là, moi, j'ai-tu envie vraiment de vivre ça, de toujours être stressé, endetté, de devoir courir un peu partout, de travailler des heures qui n'ont pas de bon sens. Donc, c'est temps de vraiment profitons de l'arrêt qu'on a eu, puis
Montréal,
changeons. Ouais. Là.
Montréal a créé l'Office de la gastronomie.
Oui.
Vous dites ça avec un...
Mais non, mais c'est parce que je veux dire, les mots qui ont été utilisés dans le rayonnement dans cet office de la gastronomie là, c'est le rayonnement à l'international. C'est quelque chose. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du rayonnement de Montréal gastronomique à l'international, c'est ça doit faire 15-16 ans avec Jean-Pierre Curta dans un CA pour Montréal en lumière où est-ce que c'était à l'époque, c'était présent, c'était là, il avait déjà cet engouement là pour le Montréal gastronomique, le rayonnement à l'international. Donc, je trouve juste que d'arriver 10-15 ans après, avec une solution dans une crise, de donner de l'argent pour faire rayonner une ville qui rayonne déjà comme étant la ou la deuxième ville gastronomique en Amérique du Nord, avec ça se partage entre New York, puis tu sais, ça partage un peu, mais ça reste, est-ce qu'on avait vraiment besoin de le remettre sur la carte? Les touristes, ils viennent pas parce qu'ils veulent pas, ils viennent pas parce qu'en ce moment, il y a la pandémie, c'est plus dur, c'est pas une question de nous faire de la publicité qui va nous aider. Puis je pense que cet argent-là, ben on en a besoin d'une façon beaucoup plus réaliste. Il est temps qu'on s'attarde à nos cas chacun précisément, puis qu'on dise, regarde, toi ça t'a affecté comme ça, si on peut t'aider, comment on peut le faire, tu sais, puis d'avoir des aides directes.
Est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer, puis quand les barrières sanitaires vont être un petit peu abaissées, les gens vont revenir, puis la vie va reprendre comme avant?
Ben, je l'espère, mais tu sais, à quel point ça va, combien de temps ça va prendre, puis oui, c'est un dur moment à passer, c'est le fun quand on sait qu'il va y avoir une fin à un dur moment, mais là, en ce moment, on le sait pas. Est-ce que ça va être dans quelques mois, quelques années? Combien de temps ça va prendre pour que la vie reprenne pour vrai? J'ai mon questionnement. Fait que si nous, on est pour rouler de la façon qu'on roule en ce moment, puis d'espérer avoir, tu sais, là, c'est bon, on a beaucoup de réservations, mais dans 6 mois, ça va être comment? Il faut un modèle d'affaires d'un restaurant, c'est jamais, peut-être, si tu fais en temps et temps, c'est, faut que tu dises, moi, j'ai 35 places. Faut que j'assoie 35 personnes à tous les soirs. Puis là, malheureusement, il y a toujours le fameux phénomène d'annulation qui est très, 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 très présent encore. Malheureusement.
Ça me dépasse. Alors,
mais tu sais, c'est que d'une certaine façon, on peut pas vraiment... Tu sais, les gens qui annulent 48 heures ou 24 heures à l'avance, c'est bon, ils ont annulé, ils l'ont dit. Mais moi, c'est déjà dur d'avoir une réservation chez nous. Fait que c'est rare que les gens vont voir la journée même ou la journée... Fait que des fois, ça peut faire que, bon, on est passé de 35 clients à 18 en une soirée. Puis moi, je peux pas... Il y a des sites là que je pourrais payer qui mettraient ça à rabais. Puis que... Mais je trouve qu'à un moment donné, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour...
Mais est-ce que c'est pas tentant d'avoir, je dirais pas une liste noire, là, mais de ouais. dire quelqu'un qui, mettons, là, réserve, ne se présente pas, n'a même pas appelé,
ouais.
puis qui rappelle deux semaines après pour réserver, ça va être...
C'est, mais ça, moi, c'est pas quelque chose vraiment que je suis pas vraiment pour cette liste noire-là. Moi, je suis plus pour qu'on aille de l'avant puis qu'on... On nous aide à créer un système où est-ce qu'on va pouvoir faire payer les gens d'avance. Je sais qu'il y a plusieurs restaurants qui le font, mais chacun a sa technique et chacun a payé cher d'avocats pour être sûr que tu as le droit de faire ça. Parce que théoriquement, on n'a pas le droit de faire payer des gens d'avance pour de la nourriture. C'est la loi. Faut que la nourriture soit donnée avant qu'ils payent. En tout cas. Donc, déjà, si on était capable de faire un système clair, facile et que les gens adhèrent à ce système-là, parce que là, Si ça coûte 100$ faire une réservation, mais que si tu viens pas, tu perds ton 100$, ben là, ça se peut qu'on ait bien moins de réservations parce qu'il y a plein de monde qui réserve. Moi, j'appelle ça un peu le phénomène Amazon. Tu sais, les gens qui prennent un verre de vin, qui vont sur Amazon puis qui commandent du linge. Puis
qui remplissent le panier. Là,
mais c'est ça. Puis là, ils l'oublient. Puis là, le lendemain matin, ils voient ça. Bon, mais il y a plein de monde qui réserve puis qui l'oublient. Des fois, on appelle les gens vraiment à 48 heures à l'avance puis on s'assure vraiment. Puis souvent, les gens disent hey, « on avait oublié ». Mais oui, mais tu sais... Pour nous, ce petit truc-là, pour nous, peut découler en des pertes qui valent au-dessus de 1 000 $, 1 500 $.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Ben, écoutez, j'ai commencé avec mon équipe, on a commencé à regarder, j'ai parlé à plusieurs restaurateurs, donc, qui ont commencé aussi à faire ce système-là. On va trouver une solution pour nous, pour le mousseau. Puis, je pense que, bon, j'ai pas à me... Je veux dire, on me connaît comme ça. Je veux dire, quand j'essaye quelque chose, je le fais, je le mets sur la table, je l'assume. Fait que moi, je suis prêt à assumer ça. À dire, écoutez, tu veux faire une réservation? Si t'es pas sûr au moment que t'as face, ben, je suis désolé, ça se peut que ça te coûte 100$ si tu viens pas. Puis tu sais, de pas charger au complet, mais juste de charger. Moi, j'ai 90 places. C'est-à-dire, je fais 90 personnes par semaine, en moyenne. Entre 90 et 105. Si je sais que j'ai 105 personnes cette semaine, puis que je commande 105 homards, parce qu'il y a un homard par personne dans mon menu, ben, si j'ai 15-20 personnes qui viennent pas, j'ai 15-20 homards qui restent dans mon frigo. C'est bien beau manger du homard le dimanche, mais il me coûte cher en crime, mon homard. Tu sais, fait que c'est pas... Ce que je veux, c'est que les gens comprennent que pour ma réalité à moi, on parle du mousseau ici. Oui. Je veux pas mettre...
Non, vous êtes pas le porte-parole de l'industrie.
Non, je suis porte-parole de moi-même. Puis je suis quelqu'un qui a une grande gueule puis qui aime dire les vraies choses. Puis j'aime qu'on comprenne que... Écoutez, avec tous les beaux mots que j'ai du monde qui viennent, là. J'ai quelqu'un qui est venu il y a pas longtemps, qui dit, moi, j'ai voyagé partout dans le monde. Je mange dans tous les étoilés, puis il dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu une expérience comme ça. Puis il me dit, c'est ridicule le prix. Puis il savait, parce que bon, j'avais parlé du prix, j'en parle pendant mon repas spectacle, maintenant, qu'on peut appeler un peu. Je l'explique aux gens. Puis le monsieur m'a dit, mais c'est ridicule, t'es encore pas assez cher. Fait que, tu sais, je veux faire avancer les choses petit à petit. Je veux que les gens s'adaptent. Fait que je choque un peu, mais en même temps, je laisse aux gens un temps d'adaptation. Puis ceux qui me disent, ben moi, je viendrai pas manger chez vous, c'est trop cher. Je veux dire, je suis désolé pour vous. Il y en a plein d'autres des bons restaurants que vous pouvez encourager, qui vont rentrer dans votre budget. Allez les encourager eux autres. Moi, j'appelle pas chez Lamborghini Côte Vertu pour dire, hey, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une Lamborghini. Je fais juste pas le faire. Je veux dire, si j'en ai les moyens un jour, je le ferai, mais je veux pas. Le but, c'est pas pour tout le monde. C'est une question de... C'est un événement. Je veux que les gens comprennent qu'en venant chez nous, tu viens pas si tu veux parler à quelqu'un sérieusement. On va te couper à chaque 2 secondes pendant qu'on amène un plat puis te l'expliquer. Puis c'est une expérience, c'est un show qu'on donne. Fait que moi, je parle pour moi. Je suis là maintenant. J'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mes pensées. Je l'ai dit à tout le monde très haut et fort. Qu'est-ce que je revendique? Pour moi, ceux qui me suivent, me suivent. Ceux qui m'aiment pas, m'aimeront pas. Ça changera rien, hein, tu sais. Moi, le but, c'est que je continue à être en quête d'une belle vie. C'est tout. C'est ce que je veux. Je veux que mes employés aient une belle vie. Je veux que moi, j'aie une belle vie. Je veux avoir du temps pour faire mes autres passions. Je veux que mes employés aient du temps pour vivre avec leur famille. S'il y en a un qui va avoir j'en ai un qui va avoir un enfant dans pas long. Le fait qu'il travaille 3 jours, 3 grosses journées plus une petite journée, il y a 3 jours de congé pour être avec sa famille. Ça doit devenir maintenant une règle officielle de faire attention à ses employés dans le milieu de la restauration, autant qu'on fait attention aux gens dans plein d'autres domaines. Il y a des domaines encore où il y a de l'exploitation, là. Mais on a vu les changements dans les dernières années, comment c'est important de prendre soin des gens avec qui on travaille, de les écouter, de leur donner ce qu'ils veulent et de pas les brûler. On a fait ça dans plein de domaines. Ben, maintenant, c'est le temps qu'on réalise qu'en restauration, il faut le faire aussi. Ça va venir avec des coûts. La bonne nouvelle, c'est que la bonne nourriture, les bons ingrédients sont maintenant plus accessibles pour tout le monde. Apprenez à mieux cuisiner à la maison et quand vous sortez, sortez mieux. Sortez moins, mais sortez mieux.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça fait plaisir, merci beaucoup.
Antonin Mousseau-Rivard, qui est le chef propriétaire du restaurant Le Mouchon.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.